Bonjour à toutes et à tous, très chers frères et sœurs, et encore une fois bienvenue dans l'église de notre Seigneur, bienvenue à Saint-Maur, dans cette église également locale. J'espère que vous allez bien, oui, j'espère que vous êtes contents également d'être ici présents, réunis ensemble, pour pouvoir célébrer notre Seigneur, nous venons de le faire, pour pouvoir également partager sa parole et également écouter ce qu'il a à nous dire à travers cette épître de Paul aux Éphésiens, à travers ce passage. Comme l'a dit notre frère Francis, nous parcourons depuis le début de l'année l'épître de Paul aux Éphésiens. Cette épître où Paul avait vraiment à cœur de pouvoir encourager les chrétiens, également leur pouvoir leur dévoiler le mystère de l'Église. Comment est-ce que Christ a voulu que l'Église vive? Quel était le plan également d'inclure les Juifs et les non-Juifs? Et on l'a vu dans les trois premiers chapitres qui étaient plutôt théologiques, les richesses, les bénédictions que nous avions dans notre Seigneur. Comment est-ce qu'il a uni les Juifs et les non-Juifs en une seule et même Église? Et également le ministère qui a été dévoilé pour les chrétiens. Et nous avons vu également à partir de la semaine dernière, à partir du chapitre 4, une partie beaucoup plus pratique. Comment est-ce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre l'unité? Comment est-ce qu'en Christ également, nous sommes appelés à vivre une vie différente en Christ, une marche qui soit digne de l'appel de notre Seigneur? Et ça nous amène, au texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 7 à 16. Je vais prendre la zapette. Bon. Ah. C'est toi ou c'est moi? Ah, bon. C'est laquelle? Ah, ok. Donc, est-ce que vous savez tous ce que c'est ça? Oui? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a des gens en plus qui sont... Est-ce que des gens peuvent me dire ce que c'est? Hein? C'est les carnets de santé. Ouais, je sais pas comment ça se passe maintenant pour les nouveaux enfants, mais moi, à mon époque, c'était comme ça. J'ai pas mis le mien... Parce que sinon, vous seriez moqué et vous auriez dit que Madame Lee ne me traitait pas bien. Mais voilà, en effet, c'est ce qu'on trouve dans un carnet de santé. Et c'est une courbe de croissance. Cette courbe de croissance a pour but de pouvoir montrer, en fonction de l'âge, en règle générale, vous pouvez le voir, âge, combien de mois, il y a deux courbes, une courbe normalement pour le poids et une courbe pour la taille. Et donc, ça permet de dire, de manière régulière, on va voir le médecin, votre enfant ou telle personne va plutôt bien par rapport à l'âge, elle est dans telle ou telle... est-ce qu'elle est, elle est dans la moyenne ou pas? Et le but, en fait, de cette courbe, c'est vraiment de pouvoir nous donner une direction, en fait, vers quoi doit grandir normalement quelqu'un. En règle générale, c'est pas en bas, on a une croissance. Et également de donner des paramètres, en fait, des moyens pour mesurer la croissance. Pourquoi est-ce que je vous montre ça aujourd'hui? Dans le texte qu'on va voir, Paul nous parle également de croissance. Paul également nous parle d'une direction vers laquelle nous devons aller. Et Paul a un message à nous faire passer également, à travers ces divers versets. Le message aujourd'hui que j'ai envie de vous partager, c'est grandissons tous ensemble dans la vérité et l'amour à l'image du Christ. Grandissons tous ensemble dans la vérité et l'amour à l'image du Christ. Nous allons voir ça en trois temps. Versets 7 à 10, nous allons voir que l'Église est une Église diverse, mais unie en Christ. Versets 11 à 13, nous allons voir le plan parfait de Dieu pour l'Église. Et enfin, nous allons voir comment l'Église est appelée à vivre remplie de vérité et d'amour. Donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière et comme nous l'avons chanté à travers notre frère Ioxas et notre frère Stéphane, merci encore pour la louange. L'apôtre Paul nous rappelait au chapitre 4 l'importance d'avoir une église qui soit unie en Christ. Nous avons lu dans les versets 4 à 6 tout à l'heure, également nous avons un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous. C'est ce qui est rappelé dans les versets tout juste précédents. Verset 7, l'apôtre Paul nous dit « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure de Christ. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du nom de Christ. Ici, le Paul développe une autre partie, Paul développe une autre thématique, où il dit qu'en effet, en tant que chrétien, il y a bien sûr cette unité que nous sommes appelés à vivre ensemble en Christ, mais également cette diversité que Dieu donne à l'Église. Cependant, qui marque la différence à chacun de nous en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église, il a été donné à la mesure de Christ, du don de Christ, c'est-à-dire comme Dieu l'a voulu, comme Christ l'a voulu. Et on voit encore cette tension qui existe dans l'Église entre l'unité et l'individualité. Bien sûr, nous sommes unis en Christ, mais Dieu a donné également des dons à chacun d'entre nous. Et ces dons-là sont une grâce de Dieu au-dessus de la grâce à travers le sacrifice de Jésus-Christ. C'est une grâce de Dieu qui surabonde au-dessus de la grâce que nous avons en étant sauvés en Jésus-Christ. Des passages qui viennent confirmer ce point. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. « En chacun, l'Église se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Pardon. « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Également, Romains chapitre 12, au verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Et oui, ce verset nous rappelle encore une fois que, bien sûr, nous sommes une Église unie en Christ. Nous avons un seul Père, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule Église. Mais l'Église est également diverse et variée. Je pense qu'on peut le voir. Si vous retournez les uns envers les autres, nous ne sommes pas tous pareils. Et Dieu merci, nous ne sommes pas tous à l'image de Pasteur Philippe. Dieu merci ou pas ? Dieu merci. Mais nous sommes tous différents et c'est ça aussi la beauté de l'Église de Christ. Et c'est comme ça que Dieu a voulu l'Église de Christ et également l'Église de Saint-Maur. Remercions le Seigneur, voyons que chacun des frères et sœurs qui nous unit et qui nous réunit et qui nous entoure est différent et célébrons Dieu, comme nous l'avons chanté, pour nos différences. Et ces dons qu'on vient d'évoquer, ces grâces au-dessus de la grâce, nous pouvons en être sûrs, nous pouvons en être certains que Dieu délivre, Dieu dispense ses grâces. Au verset 8, Paul nous le rappelle encore une fois. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Cette partie-là, c'est pourquoi il est dit, c'est une reprise du psaume au chapitre 68, verset 19, psaume de David, et c'est un psaume à travers le verset au chapitre 68 qui se remémore en fait de la victoire et de la prise de Jérusalem au temps du roi David, qui évoque un roi victorieux, un roi qui a gagné des prisonniers, qui a emmené des prisonniers, en fait, qui les a gagnés suite à la guerre. Il a fait également des dons aux hommes. Et cette partie-là du texte rappelle, et à travers le psalmiste David, comment est-ce que ce qu'annonce le prophète David et le roi David s'est également réalisé à travers Jésus-Christ. Ici, à partir du verset 9, il dit « Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu ?» Celui qui est descendu est celui, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Le roi qui nous dispense ses grâces et ses dons, c'est un roi qui est d'abord descendu. C'est Jésus-Christ qui est descendu sur terre. Il est descendu sur terre dans les régions les plus basses. Comme vous pouvez vous en douter, c'est encore une fois un rappel du sacrifice de Jésus-Christ, un rappel de l'évangile, de la bonne nouvelle que nous sommes appelés à vivre. Oui, frères et sœurs, ce roi, ce fils de Dieu, est venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Il est venu également mourir à la croix, mais il est ressuscité. Il est dit, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Après la vie de Jésus-Christ sur terre, après sa mort sur la croix, il a également sa résurrection et son ascension. C'est à travers son ascension et également le fait maintenant qu'il siège à la droite de Dieu qu'il a gagné le droit de nous donner des dons, qu'il a gagné le droit de remplir tout l'univers, qu'il a gagné le droit de régner sur terre. Oui, il remplit toutes choses dans l'univers, il remplit toutes choses à travers sa présence. Et là, il a également envie de remplir toutes choses et son Église à travers les dons qu'il donne à chacun. Que nous puissions toujours avoir à l'esprit, et on va le rappeler après, Et on l'a dit plusieurs fois encore durant ce culte, que la grâce de notre Seigneur nous permet aujourd'hui d'être réunis, que la grâce et l'amour de notre Seigneur qui est venu, qui a souffert sur la croix, qui s'est fait homme, qui s'est humilié, qui a voulu prendre notre condamnation et notre péché pour nous donner cette vie éternelle. Oui, cet homme-là, ce Dieu, est également maintenant élevé à la droite de Dieu. Il remplit toutes choses à travers son esprit qu'il nous donne et il nous demande également d'être utilisé par lui en tant qu'Église pour bénir la terre, pour remplir l'univers. Et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie maintenant que nous avons vu ce sur quoi repose le plan de l'Église. Nous allons voir maintenant quel est le plan que Dieu veut pour notre Église à partir du verset 11 au verset 13. Verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Paul ici décrit une liste de ministères spécifiques que Jésus-Christ a voulu, que Jésus-Christ a donné pour établir l'Église. Tout d'abord, il est cité les apôtres. Les apôtres sont des hommes envoyés de Dieu, spécifiquement après la mort de Christ, qui ont pour la plupart suivi Jésus-Christ de son vivant et qui ont été appelés à établir l'Église. Comment est-ce que Dieu a voulu construire son Église? Comment est-ce que Dieu a voulu établir son Église? Il a envoyé des apôtres, des hommes qui étaient investis d'une autorité spirituelle, des hommes à qui les paroles ont été révélées et des hommes qui avaient à cœur et qui avaient pour mission également de transmettre l'Évangile et la parole de Dieu aux églises primitives. Tel est ce rôle d'apôtre qui est dit et telle est la première chose que Jésus-Christ nous rappelle comme ministère. Ensuite, il y a les prophètes. Je pense que les prophètes peut nous rappeler beaucoup de choses ou peut-être peut nous faire penser à beaucoup de types de ministères. Des gens peuvent dire « je reçois des paroles de prophétie, Dieu m'a dit que, il faut que... » Ici, le prophète, tel qu'il est mentionné dans ce texte, apparaît être un ministère particulier également. Un ministère de prophétie et non pas un don de prophétie qui a été circonscrit également au moment de l'Église primitive. Et ces prophètes étaient assimilés à des églises locales et ils avaient pour but également d'encourager les frères, d'encourager les assemblées à travers la parole de Dieu, à travers des révélations spécifiques. Mais une fois que la parole de Dieu a été totalement révélée par la Bible, par les Écritures, ce ministère-là n'était plus indispensable pour les églises. Parce que ce ministère-là était ensuite pris, ce ministère-là était relayé à travers les prochains ministères que nous allons voir. Donc après les apôtres et les prophètes, qui étaient des ministères spécifiques pour l'établissement de l'Église primitive, après l'œuvre de Christ sur terre, nous allons nous intéresser aux évangélistes. Ces évangélistes sont des hommes, sont des personnes qui ont à cœur de partager la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu et l'Évangile, la bonne nouvelle, travaillent dans mon cœur et comment est-ce que cette parole est amenée également à être partagée, aussi bien aux non-croyants, pour les amener vers Christ, qu'aux croyants également, parce que nous avons besoin chaque jour, à chaque moment également, de nous rappeler de la vérité de l'Évangile, de nous rappeler que nous sommes graciés, que nous sommes privilégiés d'avoir cette relation avec notre Seigneur. Oui, le mystère d'évangéliste était un mystère important que Dieu a voulu également instituer dans une église pour pouvoir partager sa parole aux croyants comme aux non-croyants. Et la dernière catégorie de personnes, de ministères que Paul nous rappelle ici, c'est bergers et enseignants. Bergers et enseignants, ici, on peut les entendre comme des pasteurs. Donc, Jésus-Christ a voulu établir l'Église en donnant également comme ministère des pasteurs, des bergers et des enseignants, des hommes qui sont versés dans la parole de Dieu et qui ont capacité également à la transmettre, à l'enseigner aux frères et aux sœurs, aux membres de l'Assemblée. Tels sont les ministres et les ministères que Dieu a voulu pour équiper l'Église. Les apôtres, des prophètes, comme on l'a vu, qui étaient spécifiques à l'établissement de l'Église primitive. Ensuite, des évangélistes pour partager la parole et des pasteurs et des enseignants pour que nous puissions grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et justement, au verset 12, quel était le but spécifique de ces différents ministères ? Verset 12, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, tous ces hommes, tous ces ministères n'ont pas été donnés par hasard, mais ils ont été donnés pour un but précis, pour former les saints aux tâches en vue de l'édification du corps de Christ. Dans d'autres versions, verset 12, on a pour perfectionner les saints aux tâches. Ce mot former, perfectionner, étymologiquement parlant, il a ce sens qui est de rendre capable, de perfectionner, comme on l'a dit, de rendre capable les personnes auxquelles Dieu a donné un don. Dieu a, comme on l'a dit au verset 7, Dieu a donné un don à chacun d'entre nous. Il a fait une église diverse. Mais il met des hommes et des femmes également dans les églises pour pouvoir former, pour pouvoir façonner, pour pouvoir aider en vue de l'édification du corps de Christ. Tel est le but de ces hommes et des femmes, également de nous en tant que membres d'une église. C'est la croissance du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, c'est le fait qu'on puisse grandir, croître ensemble. Oui, frères et sœurs, comme nous avons été sauvés, Dieu n'a pas voulu que nous ayons été sauvés juste pour être sauvés, entre guillemets. Quelle grâce, quel privilège nous avons eu et nous avons de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus-Christ a un plan bien précis pour l'Église. Il veut la former, la perfectionner, et veut la voir grandir, le corps de Christ. Il faut que nous grandissions. Grandissions vers quoi ? Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Deux thèmes, unité de la foi, unité de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi ici, telle que nous la décrit Paul, c'est cette capacité en tant que chrétien à nous mettre d'accord sur ce en quoi nous croyons. Nous l'avons chanté et nous l'avons revu dans les versets 4 à 6, nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Père, un seul Seigneur, il y a un seul baptême. Et cette unité de la foi également, c'est cette capacité que nous avons en tant que chrétiens à nous mettre tous ensemble d'accord sur ce en quoi nous croyons. Est-ce que nous croyons ? Est-ce que nous nous mettons d'accord pour croire en un seul Dieu, en un seul Christ ? En un seul Dieu, en un seul Seigneur, en un seul baptême ? Est-ce que nous croyons également tous ensemble à cette bonne nouvelle de Christ qui nous a sauvés en tant que pécheurs, qui nous a permis d'avoir une vie nouvelle en tant que membres d'une église et qui nous permet chaque jour également de bénéficier de dons et de vivre ensemble une vie qui est renouvelée par l'Esprit ? Est-ce que nous sommes d'accord tous par rapport à ces doctrines qui sont jugées primaires, est-ce que nous également nous sommes d'accord sur des doctrines qui sont plus secondaires? Comment exercer certains dons? Comment est-ce que nous sommes appelés à vivre en communauté? Est-ce que nous allons voir dans les chapitres prochains? Quelle est l'attitude que nous avons en tant que chrétiens et comment nous sommes appelés à vivre? Toutes ces choses-là, Dieu nous appelle en tant qu'Église à avoir une unité de la foi, une unité de ce en quoi nous croyons. Aussi bien à l'Église de Saint-Maur que l'Église avec un grand E, et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Il y a également l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et évidemment, on a vu dans l'unité de la foi qu'il y a cette connaissance de Dieu, peut-être intellectuelle, théologique, ce sur quoi nous voulons nous mettre d'accord, ce en quoi nous croyons, mais il y a également la connaissance du Fils de Dieu. Quelle serait notre théologie, quelles seraient nos connaissances et à quoi les serviraient-elles si nous n'avions pas de relation avec Dieu, si nous n'avions pas d'intimité avec Dieu, si nous ne laissons pas cette parole travailler dans notre cœur et produire du fruit. Et oui, cette connaissance du Fils de Dieu, nous sommes appelés à la vivre. Elle découle de l'unité de la foi parce que nous croyons au même évangile, parce que nous croyons au même Dieu. Nous voulons lui obéir, nous voulons lui obéir en toute chose, réaliser sa volonté. Et cela implique également que nous nous rapprochions de lui dans notre intimité, jour après jour. Et bien des fois, nous pouvons nous perdre dans nos activités. Bien des fois, nous pouvons rechercher la connaissance, rechercher la foi, sans forcément vivre la connaissance. Mais Dieu appelle une église, Dieu nous appelle en tant que frères et sœurs, et Dieu nous appelle en tant qu'enfants, à rechercher toujours cette intimité, cette relation avec lui. Dans nos prières, dans notre lecture de la parole, également dans nos relations avec les frères et sœurs, Dieu nous invite à vivre cette unité de la connaissance. Et non pas juste moi, avoir cette intimité avec Dieu, mais également ensemble, nous voulons arriver à une connaissance de Dieu. Ensemble, nous voulons arriver à une relation avec notre Seigneur. Et nous pouvons voir à la suite du verset 13 que l'unité de la foi et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu ont pour conséquence la maturité de l'adulte et la mesure de la stature parfaite, la mesure de la stature parfaite de Christ. Si on reprend ces versets, Dieu a établi des ministres spécifiques pour perfectionner les frères et sœurs de l'Église, pour les rendre, pour les faire grandir et pour les rendre adultes et pour les rendre à l'image de Christ. Qu'est-ce que ça implique, la maturité de l'adulte ? La maturité de l'adulte, comme on le voit, c'est à la suite de l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Cette maturité intervient lorsque, en tant que chrétien, l'unité de la foi et l'unité de la connaissance sont appliquées ensemble. Quand notre connaissance et également notre vie personnelle avec Christ sont en action, toutes les deux. Cela veut dire que la parole de Dieu commence à produire ses fruits en moi. Cela veut dire que l'amour que j'ai est manifesté envers les autres. Cela veut dire que la bonté que j'ai, la patience que j'ai, la bienveillance que j'ai également est manifestée à mes frères et sœurs et aux personnes non croyantes. C'est comme ça que je deviens adulte. C'est lorsque la parole de Dieu et la connaissance du Fils de Dieu produisent des fruits en moi, me mettent en action pour que je puisse manifester l'amour de Christ aux personnes qui m'entourent. Tel est le but, que nous puissions grandir et que nous puissions être à l'image de Christ, parce que quand nous ferons preuve d'amour, quand nous ferons preuve de bonté, quand nous ferons preuve de joie, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais cette joie qui est simplement de savoir que nous appartenons à Jésus-Christ, quand nous montrerons tout ça, quand la parole produira tous ses fruits en nous, alors oui, nous ressemblerons à Christ. Il y a souvent un proverbe qui dit que bien souvent les gens qui s'aiment se ressemblent. En tout cas, c'est peut-être un proverbe qui est dans mon entourage. Mais on se dit souvent que plus deux personnes s'aiment ou plus des personnes s'aiment, plus elles vont se ressembler, notamment dans les couples, où les personnes prennent des traits physiques et se ressemblent. Non, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Et ici, quand on dit qu'on ressemble à Christ, je ne pense pas que nous soyons appelés ici, en tant qu'Église de Saint-Maur, à ressembler à Christ physiquement. Mais dans notre amour pour notre Seigneur, dans notre volonté d'être unis ensemble par la foi et par la connaissance, Christ nous change personnellement. Christ change notre personne, Christ change notre vie, Christ change notre caractère. Et parce que nous sommes unis, nous avançons tous dans la même direction, cette direction claire qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Et quand Christ agit dans notre cœur, nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas rester inchangés. Et nous commençons à changer, tous ensemble. Nous commençons à ressembler à Christ dans son amour, dans sa soumission au Père, dans également sa soumission aux autres, dans son service, dans cette capacité à se sacrifier. Oui, frères et sœurs, l'unité de la foi et l'unité de la connaissance nous permettent d'être transformés par la parole de Dieu, par son application et de ressembler à Christ. Paul, par la suite, nous rappelle et nous donne des implications à ce but final que nous avons de ressembler à Christ en tant qu'Église. À partir du verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, dans les manœuvres d'égarement. » Paul ici nous incite, en tant qu'Église, à ne plus être des enfants, mais à devenir des adultes. Qu'est-ce qu'il entend par « nous ne serons plus des petits-enfants » Il continue dans la deuxième partie du verset 14, « Vous ne serez plus ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes. » Telle est la conséquence, en fait, de ne plus être des enfants. Ce n'est pas forcément de gagner en stature, ce n'est pas forcément de gagner en assurance, en confiance, en connaissance, ou en tout cas pas n'importe quelle connaissance. Mais c'est vraiment de faire face à tout vent de doctrine, à toute ruse, à toute séduction des hommes. John Stott, qui est l'un des pasteurs et théologiens du mouvement évangélique, un des pasteurs les plus connus du XXe siècle, a qualifié ainsi les enfants spirituels et la différence avec des adultes spirituels. Nous devons tous ressembler aux enfants dans leur humilité et innocence, mais pas dans leur ignorance ou instabilité. Un enfant instable est comme un petit bateau dans une mer orageuse, à la merci du vent et des vagues. Tels sont les chrétiens qui manquent de maturité. Ils ne savent jamais ce qu'ils pensent, ils n'ont jamais de conviction fixe. Leurs opinions ont tendance à être ceux du dernier prédicateur entendu ou du dernier livre lu, et ils sont une proie facile pour chaque fausse théologie annoncée. Ils ne savent pas résister à la tromperie des hommes et à leurs moyens de séduction. Tel est, entre guillemets, le tableau que dresse John Stott entre enfants spirituels et adultes spirituels. Les enfants sont caractérisés par une ignorance, une instabilité, un manque de connaissance de la parole de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils pensent, n'ont pas de conviction fixe par rapport à la foi, une proie facile aux théologies annoncées. Ici, Paul nous invite à devenir des adultes et par différence à ne pas être de la sorte. Paul avertit dans les églises, peut-être des jeunes convertis ou des personnes qui sont encore peu matures dans la foi et qui n'ont pas encore de conviction et de connaissances solides. Il nous appelle à prendre soin de ces personnes-là, à les enseigner dans la parole, à travers les Écritures, comme nous avons vu tout à l'heure l'unité de la foi, que nous puissions enseigner et nous enseigner et nous rappeler quel est l'évangile dans lequel nous croyons, pour que nous puissions ensemble devenir adultes et ne plus être des enfants ballottés, séduits par des faux enseignements, séduits par un faux évangile qui serait séducteur peut-être à nos oreilles, mais qui pourrait nous amener et qui pourrait nous écarter de notre Seigneur. Que pourrait-on répondre à des personnes qui nous promettent, une fois que nous sommes convertis, de vivre une vie totalement dénuée de souffrance, de vivre une vie totalement pleine de richesses, de vivre avec du succès, de vivre avec tout ce que je rêve, tout ce dont j'ai envie, tout ce que mon cœur désire? Que répondrions-nous à cela? Est-ce que nous aurions des convictions fixes? Est-ce que nous saurions également ce que la parole dit, ce que la Bible dit, à travers ces mensonges, à travers ces faux évangiles? Ou est-ce que nous saurions également séduit. Tel est l'avertissement que Paul nous donne et également un encouragement à connaître la parole de Dieu et à nous le rappeler ensemble en tant qu'Église. Et c'est ce que nous allons voir ensuite dans le verset 15. Paul continue dans cette partie du verset 15 avec le mot « mais ». Il a décrit qu'est-ce que c'était, entre guillemets, d'être enfant spirituel. Qu'est-ce que ça pouvait impliquer, que nous soyons ballottés, que nous ne savions pas quoi penser, que nous pouvions être séduits par des faux enseignements. Et au verset 15, il nous raconte « mais en disant la vérité dans l'amour ». Quelle est donc la solution, frères et sœurs, pour ne plus être des enfants ? Disons-nous la vérité dans l'amour. Alors ce verset est utilisé parfois par des gens pour dire il faut qu'on se dise les choses, il y a que la vérité qui compte, il faut se dire nos quatre vérités. Et nous devons dire les choses en tant que famille, en tant qu'Église. Mais ici, nous dire la vérité, ce n'est pas simplement nous dire ce que je pense de l'autre ou ce qu'il faudrait que l'autre fasse ou ce qu'il faudrait que l'Église, comment l'Église devrait se comporter. Mais ici, la vérité est totalement différente de ce qu'on a vu au verset 14, c'est-à-dire les faux enseignements, le faux évangile, tout ce qui pourrait nous séduire et nous éloigner de Christ. Donc la vérité, en fait, c'est le contraire. Le contraire du faux évangile, le contraire d'une fausse théologie. Comment grandir en tant qu'Église, comment grandir en tant que chrétien ? Il faut simplement que nous disions la vérité, que nous nous rappelions ce qu'est la vérité en Christ, ce qu'est la connaissance de la parole de Dieu, ce qu'est également notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, ici Paul nous appelle en tant que chrétien à nous rappeler dans nos interactions entre frères et sœurs, à l'Église, rappelons-nous l'Évangile, encore une fois, de Christ. Il n'y a pas de chose plus belle et de chose plus importante que de nous rappeler de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans notre vie en tant que disciple, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu ? Comment est-ce que je peux apporter cette parole à des frères et à des sœurs ? Comment est-ce que je peux dire cette vérité pour encourager, exhorter mon frère ou ma sœur ? Tel est ce que nous appelle l'apôtre Paul ici. Devenons des adultes, grandissons ensemble en Christ en nous rappelant les vérités de la parole de Dieu, en nous rappelant la chance que nous avons, en nous rappelant également, c'est ce que fait Paul dans son épître aux Éphésiens. Il rappelle toutes les bénédictions, toutes les richesses qu'il y a à être sauvé et à faire partie de l'Église de Christ. Rappelons-nous ça également, c'est ce que nous faisons à travers toutes ces prédications. Rappelons-nous le but même de l'Église. Et je pense que c'était aussi le but de notre pasteur Philippe. Rappelons-nous cette chance que nous avons en tant que chrétiens de former un seul et même corps. Rappelons-nous que nous avons été sauvés et rachetés à grand prix. Rappelons-nous que nous sommes amenés et appelés à vivre une vie digne du sacrifice de Jésus-Christ. Rappelons-nous toutes ces choses-là. Parce que c'est alors que nous ne serons plus des enfants. C'est alors que nous pourrons mettre de côté tous les faux enseignements. C'est alors que nous pourrons grandir ensemble en tant qu'Église, comme Dieu l'a voulu, et dans la direction également qu'il a voulu. Et cette vérité-là, bien sûr, doit être dite avec amour. L'amour est très important. Connaissance et amour, ici vérité et amour, sont cruciaux. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, « La connaissance sans amour enfle et se gonfle d'orgueil. Si je connais et que je ne fais que de dire sans amour, alors je suis orgueilleux. » Et je me le dis à moi-même, entre guillemets, qui prêche. D'autant plus, si je connais, mais que je suis juste là à dire sans amour pour mes frères et sœurs, alors je suis orgueilleux. Et ce n'est pas ce que veut Dieu dans l'Église pour grandir. À l'opposé, l'amour sans connaissance est confus et sans but. Je peux aimer et le montrer à un frère ou à une sœur, mais s'il n'y a pas de connaissance, s'il n'y a pas de fondement théologique, s'il n'y a pas de vérité, alors il est sans but, il se dégrade, il se désagrège, c'est juste de l'émotion, c'est juste de la sentimentalité. L'amour sans connaissance est sans but, il se désagrège. Alors, ici, à travers ce verset, Paul nous appelle à vivre un équilibre entre amour et vérité, que nous, qu'en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs de l'Église de Saint-Maur, nous puissions nous dire les choses, nous dire la vérité de la beauté de l'Évangile, la vérité de la beauté de notre Seigneur et de Christ, et que toutes ces choses-là, nous puissions nous les dire avec amour. Ça veut dire que je prends soin de mon frère ou de ma sœur, ça veut dire que je sais dans quelle situation il est, pour que je puisse également lui partager une parole qui soit adéquate, une parole qui vient de Dieu et qui puisse toucher son cœur et qui puisse l'encourager. Oui, c'est ce vers quoi Dieu et Jésus-Christ, à travers Paul, veut nous appeler à vivre, que nous puissions grandir ensemble dans la vérité et l'amour. Et dans la suite du verset 15, c'est ce qu'il est écrit. Mais en disant la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et hier, quand je préparais encore la prédique, je réfléchissais à ce passage et également à notre église de Saint-Maur. Et je ne sais pas si vous le savez, notre église va fêter cette année ses 20 ans. Ça va être le 20e anniversaire. Je pense que nous vous avons martelé le message quand même depuis le début de l'année. Quelle grâce, quel privilège nous avons d'avoir vécu 20 ans. En tout cas, l'église de Saint-Maur a été fondée il y a plus de 20 ans. Et en regardant à travers l'histoire de l'église, j'étais là il y a 20 ans. On peut voir la grâce de Dieu et la main de Dieu à travers différentes étapes de notre Église. Il y a beaucoup de changements dans cette Église. Si vous vous rappelez, on n'était pas du tout comme ça. Il y avait un mur. L'Église s'est agrandie physiquement. On jouait au ping-pong après le culte, mais c'est terminé. L'Église a grandi et ses membres ont grandi. Je m'inclus bien entendu dedans. Et nous avons vu beaucoup de choses changer. Et on a eu des pasteurs, pasteur Belkacem, il n'a pas eu de pasteur. On a re-eu un pasteur, merci Seigneur, à travers Philippe. Les frères et sœurs ont grandi. Il y a beaucoup de frères et des sœurs que je revois ici qui étaient là avec moi en 2002. Quelle grâce, frères et sœurs, nous avons d'avoir pu vivre toutes ces choses-là, d'avoir pu voir également l'Église grandir. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont rejoints. Quelle grâce nous avons aussi de vous accueillir et de former ensemble un seul et même corps. Et malgré tout ce qui a pu se passer, des gens sont arrivés, des gens sont partis. L'Église de Christ à Saint-Maur est encore là, est encore présente. Et bien qu'en regardant vers l'arrière et vers le passé, vers tout ce qui a pu se passer, moi, j'ai vraiment un cœur également cet après-midi de pouvoir regarder vers l'avenir, la direction vers laquelle nous voulons grandir. Dieu a préservé son Église dans ces 20 années, malgré le manque peut-être de ressources, malgré le manque de personnes, Dieu a fait grandir et a continué à faire grandir notre Église. Et aujourd'hui, Dieu a encore envie de faire grandir l'Église de Saint-Maur. Et il nous le montre encore une fois à travers sa parole. Et c'est pour ça que je suis encore rempli d'espérance et rempli de joie d'être dans cette Église, parce que je sais qu'il veut encore la faire grandir à l'image de Christ. Je sais qu'il nous donne les moyens de le faire en nous disant, encore une fois, nous rappelant en nous disant la vérité, en nous enseignant, encore comme nous le font semaine après semaine, que ce soit à l'Église, que ce soit dans nos groupes de maison. La parole de Dieu est le moyen que Dieu nous donne, avec l'amour qu'il nous donne, évidemment par son esprit, pour que nous puissions grandir les uns vers les autres, vers le but qui est ressembler à Christ. Tel est le but, tel est le moyen, et tels sont les moyens, la vérité et l'amour que tu nous donnes. Dernière partie du texte d'aujourd'hui. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. En fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Ici, l'apôtre Paul continue et nous dit, c'est de lui, encore une fois, tout vient de Christ, comme nous l'avons vu au verset 8, que le corps tout entier tire sa croissance. Oui, frères et sœurs, bien souvent dans une église, enfin bien souvent, parfois, on se dit souvent, c'est l'église peut-être de pasteur Nguyen, c'est l'église de pasteur Philippe, c'est l'église des diacres, ou entre guillemets, ce qu'on entend, c'est que l'église dépend beaucoup de ses responsables pour grandir, c'est les responsables, ou c'est les gens qui servent, qui sont responsables, entre guillemets, de la croissance. Mais ici, dans le verset 16, Paul nous dit, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Oui, frères et sœurs, chacun des membres de l'église de Dieu et implicitement également de l'église de Saint-Maur, chacun de ses membres est important. Il n'y a pas qu'un membre qui tire la croissance et l'autre membre ne fait rien. Comme dans un corps, chaque membre est important. Et que nous ayons vraiment à cœur également de voir notre église comme un corps où chaque membre est important et que nous puissions également, par amour, nous inciter, comme on l'a vu, à la vérité et à l'amour. Que nous puissions nous inciter à grandir ensemble à l'image de Christ. Deuxième point aussi qui nous a rappelé, c'est que le corps tout entier tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. En effet, le corps, en fait, ce que nous dit Paul ici, c'est que c'est de lui, c'est de Christ, que le corps tire sa croissance. Le corps tire la croissance du corps. Bien sûr, Christ est à la tête, mais le corps tire sa croissance du corps en fonction de ce que chaque membre fait. D'où l'importance, encore une fois, de chacun des membres, parce que le corps grandit, parce que le corps grandit. Le corps grandit parce que chaque membre grandit. Et quelle image plus réelle, plus vibrante, entre guillemets, que j'ai de ça, et de membres, petits membres ou grands membres, que ce qui est en train de se passer cette semaine et la semaine prochaine, à la semaine d'évangélisation. Frères et sœurs, quelle grâce, quelle joie il y a dans mon cœur. Et Samuel nous l'a rappelé, de savoir que des frères qui ont 15 ans de moins que moi, non, 18 ans de moins que moi, c'est-à-dire Chris et Clark, se sont engagés pour une semaine d'évangélisation. Et j'ai eu Chris au téléphone ce matin pour l'encourager. Et comme à son habitude, peut-être qu'on peut considérer Chris comme un jeune, entre guillemets, notre église, comme petit corps. Et comme à sa habitude, il était en retard. Ils avaient rendez-vous à 9h à Massy-Palaiso et il était 8h du matin et il me fait « Oh Mike, je suis en retard. » Je me suis dit que j'allais faire une nuit blanche, comme ça je pourrais dormir dans la voiture. Mais finalement, j'ai pas fait une nuit blanche, je me suis réveillé en retard. Enfin, c'est du Christ dans le texte. Mais il est beau. Il est beau tel qu'il est. Et quelle joie, en fait, c'était pour moi de pouvoir prier pour lui le matin parce qu'il était stressé. Bien entendu, stressé parce qu'il arrive en retard. Je vous rassure, et vous l'avez compris via le message de Samuel, ils sont bien arrivés, il est parti avec toutes les personnes, les gens l'ont entendu, il est en retard 30 minutes, mais c'est pas grave, la grâce a surabondé. Mais quelle joie et quelle inspiration c'est de voir des jeunes qui s'engagent. Et quand je parle du corps qui croit et que chaque membre croit et que quand chaque membre croit, le corps croit, c'est une démonstration parfaite. Quand un membre croit et quand je vois la croissance de Chris, de Clark ou d'autres personnes, d'autres membres de mon église, et bien Dieu utilise ça dans sa grâce pour me faire croître aussi, pour m'encourager, pour me pousser à encore plus aimer mon église et aimer notre Seigneur parce que je vois que Dieu est vivant, je vois que Dieu fait grandir son église, je vois que l'église grandit ensemble. Et toutes ces choses-là ne sont que possibles parce que l'amour est présent. Encore une fois, verset 2, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Verset 15, dites-vous la vérité avec amour. Verset 16, le corps tout entier tire sa croissance et s'édifie lui-même dans l'amour. L'amour est omniprésent à chaque instant, à chaque étape de la croissance de l'Église. C'est ce qui permet l'unité en tant que chrétien. C'est ce qui permet que quand un corps, quand un membre grandit, il ait aussi cet amour pour les autres, cette patience envers les autres, cette bienveillance envers les autres. Sachant que personne, les membres ne grandissent peut-être pas tous à la même vitesse, mais que certains membres ont besoin de plus d'attention que d'autres. Et c'est cet amour-là qui nous permet de grandir tous ensemble. Non pas, imaginez-vous un corps où il y a, enfin, ça existe, mais un corps qui soit un membre trop développé et l'autre bah, qui totalement atrophié, je sais que ça existe. Mais ce n'est pas la vision que Christ a pour son Église. Christ veut un corps qui grandit ensemble dans l'unité et dans l'amour. Dans l'unité. Et l'amour permet cette unité. Frères et sœurs, nous avons vu à travers ces dix versets le plan qu'avait du Christ et que nous a décrit Paul pour l'Église. Oui, notre Seigneur a à cœur de voir grandir l'Église, de nous voir grandir tous ensemble, comme nous l'avons vu, dans la vérité, en nous rappelant les beautés de la parole de Dieu, dans l'amour, en nous soumettant, en faisant attention, en priant, en nous exhortant les uns les autres, à l'image du Christ. Et vous pouvez voir ici, un petit peu, un essai de ma part de formaliser la pensée. Mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, en tout cas en tant qu'Église, en tant que membre, en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous appelle à grandir ensemble dans la vérité biblique, la vérité de l'Évangile, la vérité qui sauve en Jésus-Christ. Dieu nous appelle également à grandir dans l'amour, les uns envers les autres, dans notre soumission, dans notre humilité, le fait de se rendre humble les uns envers les autres, également dans le fait de prendre soin des autres. Et toutes ces choses-là, en avançant dans la même direction, pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions utiliser cet après-midi et ce moment pour simplement nous examiner sur cette frise en abscisse et en ordonnée, ou entre guillemets dans les moyens que Dieu nous donne, comment, où est-ce que nous en sommes en tant que membre individuel, où est-ce que nous en sommes dans notre connaissance de la vérité, dans notre pratique de l'amour. Est-ce que nous savons ce vers quoi Christ veut nous grandissions? Et également en tant qu'Église, que nous puissions ensemble nous interroger, discuter, partager sur comment est-ce que nous vivons la vérité les uns envers les autres. Comment est-ce que nous nous exhortons, comment est-ce que nous nous encourageons et comment est-ce qu'également nous vivons l'amour les uns envers les autres. Comment est-ce que nous prenons soin des uns des autres. Comment est-ce que nous nous exhortons, nous encourageons les uns les autres. Et oui, frères et sœurs, en cet après-midi, je vous ai rappelé une vérité. C'était mon rôle, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que Dieu a voulu mettre dans mon cœur, rappeler une vérité que nous connaissons tous. Et maintenant, je pense que Dieu nous appelle à vivre cette vérité dans l'amour, en tant qu'Église, et que nous puissions prier et que notre cœur, notre volonté, ce soit de ressembler ensemble en tant qu'Église à Christ. Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier parce que ton plan est parfait. Seigneur, tu as déjà prévu de toutes choses depuis toute éternité et tout ce que tu fais, Seigneur, tu le révèles à tes enfants et tu leur donnes les moyens et les capacités de le réaliser. Merci Père pour cette Église que tu nous donnes ici à Saint-Maur, mais encore plus pour le plan que tu as pour cette Église, Seigneur. Plan de la faire grandir ensemble. Plan de la faire ensemble se rappeler de ta parole, rappeler de ton évangile, rappeler les richesses que tu nous donnes à vivre en tant que chrétien. Et rappelez aussi que sous ces connaissances-là, ne sont utiles que si elles sont pratiquées dans l'amour les uns envers les autres, dans notre manière de nous encourager, dans notre manière de nous aimer les uns les autres. Et oui, Seigneur, que tu utilises vraiment ta parole, Seigneur, pour nous inspirer, Seigneur, de la reconnaissance et inspirer également une transformation dans nos vies, que nous soyons vraiment reconnaissants de ce que tu fais, mais également que nous voulions que ta parole continue à nous mettre en action pour toi, en tant qu'Église, Seigneur. Transforme-nous encore à l'image de Christ, aide-nous à lui ressembler dans son caractère, et que chaque jour, Seigneur, nous puissions vraiment être des enfants qui sont soumis les uns aux autres et qui veulent grandir à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui change. Merci encore pour ta parole qui édifie, qui nous construit. Et Seigneur, encore par ta main et par ton esprit, touche nos cœurs et transforme ton Église de sa mort pour la gloire de ton nom. Amen.